Alors en fait, les sargasses, hein, ce sont donc des algues brunes qui sont holopélagiques, c'est-à-dire que elles circulent, elles ne sont pas fixées, elles circulent à la surface des océans. Et on trouve quantité et quantité de ces sargasses, justement dans la mer des sargasses, qui est à l'est des Bermudes, à peu près là où il y a le triangle, le célèbre triangle des Bermudes. Il y a donc aussi cette mer des sargasses qui fait des kilomètres de long. Et Christophe Colomb, d'ailleurs, ou d'autres navigateurs, hein, donc Christophe Colomb avait vu cette étendue en pensant que bah, c'était une étendue de terre. Il avait pensé toucher terre, alors que, en fait, c'était des sargasses. Et donc, ces sargasses, elles sont dans une gyre océanique. Donc, elles tournent, en fait, sur elles-mêmes. C'est la seule mer sans rivage. Et elles tournent sur elles-mêmes. Et de temps en temps, il y a des parties de cette mer des sargasses qui se détachent. Et qui font, c'est un phénomène qui est documenté au moins depuis le 19e siècle, et donc qui descend sur l'arc caribéen et qui se dépose sur les îles. Voilà. Et on les ramassait en fait auparavant, justement, comme en Bretagne, pour en mettre sur les champs, par exemple. Voilà. Or, il s'est passé, il y a eu un événement en 2011, et on a mis beaucoup de temps à savoir quel était cet événement, justement, qui a provoqué une arrivée massive de ces sargasses. Au début, on n'avait pas très bien compris qu'elles venaient vraiment de la mer des sargasses. Donc, on a identifié deux principaux types de ces sargasses, hein, ces sargassum fluitans, ces sargassum natans. Et elles sont arrivées donc vraiment en masse, à tel point que même en 2018, il y a eu ce que les scientifiques ont appelé la grande ceinture atlantique de sargasses, qui traversait donc 8000 kilomètres d'Atlantique entre les côtes africaines et les côtes caribéennes. 8000 km de manière quand même discontinue. Mais on a détecté par image satellite justement cette énorme ceinture de sargasses, donc notamment en 2018. C'est là où il y a eu justement cette prise de conscience véritable de l'ampleur justement de ce problème. Il y a eu pendant plus de 10 mois des arrivages continus, à tel point que ben, on ne pouvait plus les enlever en fait, on ne pouvait plus dégager ces sargasses et donc elle pourrissait sur place et donc là, elle dégageait une trentaine de gaz. Donc c'est là où on a commencé à avoir véritablement les effets sur le matériel, avec le matériel électronique qui tombait en panne, télévision, climatiseur, le frigo, les ordinateurs. Et puis tout le métal devenait brun, noir, mais même aussi le bâti en fait. Donc le plafond, par exemple, était moucheté de noir. Et puis ensuite, ça partait. Et donc là, il y a eu de véritables questions qui ont commencé à se poser, évidemment. Il y a eu aussi des problèmes médicaux, des symptômes qui ont été ressentis par les habitants. Et donc, deux médecins ont fait leur thèse de médecine générale, justement, sur ces symptômes. Et il y avait vraiment une corrélation entre les arrivées de ces sargasses et puis les symptômes respiratoires, cutanés, etc.
Alors, première chose, on est allé voir les riverains, les gens du bord de mer. Or, les gaz en décomposition amènent, alors Ross expliquerait ça mieux que nous, bon, l'hydrogène sulfuré qui est mélangé au H2O, ça fait de l'acide sulfurique qui est transporté par les gouttes d'eau et qui donc se répand sur des dizaines de kilomètres. Donc nous, quand on est dans des couloirs de vent en hauteur, les sargasses se décomposent en bas. C'est ce que j'ai montré aux gens de l'ARS qui sont de Manininer, qui sont venus dans le quartier. C'est-à-dire que ils ont mis des filets, donc nous, on a un couloir de vent, on est protégé. Mais le nord de la baie du Simon n'a pas, y a pas, le filet ne couvre pas toute la baie. Donc il y a une partie dans le nord, là, près des Brisants, par exemple, où les sargasses sont toujours en décomposition et arrivent toujours. 11 ans de sargasses, jamais ramassées. Hein.
Nous, ce que l'on voulait mettre en exergue, c'était en fait la circulation des gaz, qui sont des gaz qui sont neurotoxiques, que l'on ne voit pas, dont on sent l'odeur d'œuf pourri, mais dont on ne connaît pas encore les effets à long terme sur le corps humain. On le voit sur le matériel, la dégradation, et donc on peut établir une corrélation entre la dégradation du matériel et puis la dégradation de notre santé.
Donc je pense que le raisonnement, c'est bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants là, donc ils ne sont pas prioritaires. Le problème, ce que j'ai montré, ce que j'ai fait constater, c'est que ce n'est pas seulement les gens du bord de mer qui subissent la découpage des siens. C'est tous les gens sur les hauteurs, tout d'Australie, tout Petite France, même jusqu'à Bois-Soldat, pour les gens. Tous ces gens-là, donc les gens de RRS et Madinière sont venus constater, à prendre des témoignages des riverains de leur souffrance physique, de leur eczéma, de leur maux de ventre, etc. Et voir que les maisons sont aussi endommagées à 3 km sur les hauteurs qu'au bord de mer. Là, on a vu vraiment, c'est un coup de chance, on était chez monsieur, j'ai un monsieur là, on a vu sa maison en bas, et on a vu de chez lui, on voyait une maison tout en hauteur, on a pu aller dans cette maison-là, et c'était les mêmes dégâts. C'est-à-dire que on a une sous-estimation des dégâts. Et les dégâts, ils sont aussi, la façon dont ça se répand est énorme. Je ne sais pas si vous imaginez que comme il n'y a aucun statut, actuellement, une télé, on va chez But, on achète 4 fois 100 francs, on achète une télé. Moi, j'ai perdu 6 télés. Mais là, les gens sont en train de perdre leur toiture. Tout le quartier perd sa toiture. Une toiture, c'est entre 20 000 et 30 000 euros. Et je ne sais pas si les autorités ont l'idée de... Moi, je ne peux pas aller acheter une toiture 4 fois sans frais. Ce n'est pas possible. Et rien n'est mis en place. Il n'y a aucune reconnaissance.
C'est pour ça qu'il y a une réflexion quand même.
Il n'y a aucune évaluation.
Il y a une réflexion sur comment on peut aider les populations.
Il faudrait évaluer déjà.
À faire face. Mais on ne peut pas être dans le cadre du droit commun, puisque... On l'a dit, c'est pas un risque naturel reconnu, donc il n'y a pas de possibilité d'intervention des assurances, et l'État n'assure pas les populations. Donc il y a cette difficulté-là.
Alors, en fait, malgré de nombreuses demandes de parlementaires, en effet, la sargasse n'est pas reconnue comme un risque naturel. Il y a des textes du Sénat qui le classent comme un risque émergent. Il y a des discussions à savoir justement est-ce que ça peut être classé en risque naturel ou non. Et ça ne correspond pas aux caractéristiques en fait du risque naturel parce que c'est quelque chose qui est continu. Alors que le risque naturel, en fait, c'est quelque chose qui est brutal et qui se termine et on peut réparer ensuite. Tandis que là, ce sont des arrivages aléatoires, parfois brutaux, mais le plus souvent, en fait, continus. Donc, on ne peut pas le classer comme risque naturel, pour l'instant, selon la juridiction française. Ou alors, il faudrait faire évoluer, justement, les catégories de risque naturel. C'est ce que demandent aussi les habitants.
Alors, le constat, c'est qu'il ne faut pas que elles échouent, il faut les ramasser dans les 48 heures. Si on ne les ramasse pas, elles libèrent tout ce qu'elles ont. Des gaz, des métaux lourds, et c'est une catastrophe pour ce qui est dessous, pour ce qui est en amont, plus ou moins proche de la zone d'échouement. Des études sur l'action au niveau du zinc, etc., ont montré que ça pouvait aller jusqu'à des dizaines de kilomètres. On sent l'odeur des sargasses jusqu'à Ducos, jusqu'à la Mena. Maintenant, l'odeur, ça ne veut rien dire. C'est... Les zones de base, c'est 0,07 ppm du H2S. L'œuf pourri, c'est H2S. Ça part à partir de 0,000 quelque chose. Donc, c'est pas toxique, mais ça veut dire quelque chose qui se passe. Par contre, les métaux, les bijoux, si vous avez des bijoux blancs sur vous, j'ai vu qu'il y en a pas mal, peut-être à la fin de la réunion, vous allez voir, ça va devenir noir. Ça va devenir noir, ça va noir. Ça va merci. Hein. Une fois, j'ai été interviewé par une fille de RFI, un grand reporter, qui est venu. En une heure et demie, ils sont tous allés. En direct, j'avais repéré. Quand je regarde son alliance, je savais que ça narcissait. Au bout d'un moment, ça narcissait, je regarde son alliance, je fais « Ah, oh, mais ça alors ?» Mais en direct, hein, à la radio. C'est... Alors maintenant, ce qui est mal connu, on sait que l'H2S, l'ammoniaque, on sait que c'est pas bon. Ça, c'est connu. Hein. Mais on sait que c'est pas bon en mode aigu. Et en mode chronique, on ne sait pas. Et c'est l'argument, le bouclier principal de l'ARS. Ah, lui, il ne dit plus rien. Mais lui, il dit, parce qu'on lui dit ça, il dit, oui, il n'y a aucune preuve scientifique, aucune étude qui montre qu'au niveau chronique, ça peut être bénéfique, etc. Souvent, lors des réunions, je dis, il faut arrêter de réfléchir, c'est le bon sens paysan. Là, c'est... Merde, avant, je ne pétais pas, maintenant, je pète tout le temps, ça me réveille la nuit. Quoi. C'est ça, la réalité, hein. J'ai l'œil qui me gratte, ceux qui habitent dans le coin, j'ai l'œil qui me gratte, je j'ai un gaz qui me gratte, je suis dépressif, je rentre chez moi, je vois ça, je perds, et puis je respire pas bien, les asthmatiques, ça s'aggravent, il y a des gens qui deviennent asthmatiques, c'est ça la réalité. Mais il faut le prouver, parce que sinon ils bougent pas.
Alors, on a commencé à chercher la cause de ce phénomène, justement en se disant, ainsi nous aurions un levier d'action, nous aurions la possibilité d'atténuer ou d'arrêter en fait ce phénomène si on connaît la source. Donc pendant plusieurs années, jusqu'en 2022, la cause principale qui était donnée, c'était des versements de biofertilisants ou d'autres produits nocifs dans l'Amazone et puis aussi sur les côtes ouest de l'Afrique, ce qui aurait alimenté en fait ces algues, se serait nourri avec ces nutriments. Il y a aussi le réchauffement climatique, le fait qu'il y ait une hausse de la température de l'eau. Et puis, il y a aussi un léger décalage d'un courant océanique qui fait que, justement, les sargasses, plutôt qu'auparavant, donc, d'arriver, de circuler un peu plus haut, en fait, brassaient beaucoup plus large et donc se reproduisaient avec donc la chaleur, les fertilisants, etc. Ces facteurs-là, surtout l'arrivée de biofertilisants, là, justement, ça permettait une imputation de la responsabilité. On pouvait dire « quelqu'un est responsable ». Donc, si quelqu'un est responsable, eh bien, on peut agir à la source, justement. Et donc, on pensait que c'était le Brésil. Alors, certes, il y aurait pu y avoir, c'est assez commode, parce qu'on se disait, évidemment, il y aura des problèmes diplomatiques à régler, mais c'était Bolsonaro à l'époque, donc connu pour utiliser, enfin, connu pour sa destruction de la nature. Donc, on se disait, peut-être que avec tout notre système diplomatique international, nous arriverons peut-être à l'empêcher ou à atténuer. Bon. Or, donc ça donnait un espoir aux habitants. Or, il n'en est rien. Il se trouve que, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, il y a eu une légère oscillation du globe terrestre. Et donc, une petite partie, en fait, de la mer des Sargasses est partie, s'est détachée de la grande mer des Sargasses. Et avec le réchauffement climatique, avec les courants, oui, elle prolifère. Mais donc, ça veut dire que personne, finalement, n'est responsable, véritablement. Et là, quand il y a une dilution des responsabilités, donc due au changement climatique, et comment faire? Déjà, personne n'est responsable, enfin, tout le monde est responsable. On n'a aucun levier d'action, on n'a aucun moyen d'arrêter ça.
Elle libère des pourritures, des métaux lourds, en particulier l'arsenic et la chlordécone. Puis quand elles sont échouées, qu'elles explosent et puis qu'il pleut, elles se remplissent et elles remplissent la mer de ces produits-là. Et on a découvert des taux énormes d'arsenic et de chlordécone, et ce liquide s'appelle le lixivia. Quand on voit l'état de la mangrove et des arbres, et les poissons, quand il pleut tout le lendemain, ils sont trop surtournés, il y a des photos qui sont parues. Et voilà ce que dit toujours l'ANR 2023. Vous allez charger un article en écran, c'est la biobrute, c'est une véritable bioaccumulatrice, c'est le lixivia. Arsenic de 10 mg par litre, soit plus de 500 fois supérieur à la limite réglementaire pour la pêche. Qu'en est-il de nos poissons que l'on pêche? Qu'en est-il de nos crabes que l'on prend au moment du matutu crabe? Quand vous voyez les gens sur la plage, les ouvriers qui travaillent, sans capteur ou un capteur qui s'éteignent, en pleine mer, sans masque, etc., ils sont à des taux comme ça. Moi, j'ai vu un mec qui était sur un petit bateau qui a explosé une bulle, il a juste une fois de mettre en marche arrière et il a perdu connaissance. Il y a un gamin qui tombe dans une zone où il y a des sargasses échouées, qui sont coûteuses, et puis son copain lui jette le ballon. Il va dedans, il marche, il en a, moi j'en ai jusqu'au-dessus du genou, donc lui il en a jusque-là. Et je vous assure, c'est pas facile de sortir de ça parce que ça s'enfonce. Et s'il éclate une bulle, parce que quand vous jetez des pierres là-dessus, vous jetez des pierres, puis après des petites bulles qui remontent, si lui il éclate une bulle, il a 2 minutes pour s'en sortir, sinon il est. Je suis alarmiste, mais c'est vraiment ma crainte. Hein. Moi j'ai fait des expériences avec des animaux, des poules. Hein. Je l'ai fait, j'ai attaché, le lendemain c'était mort. Hein. Ça, c'est... J'ai fait qu'une fois, hein. C'est pas bien. Mais...
Elles ont en effet, enfin, c'est les appréciations qu'on en a, les usages qu'on en a, mais même la juridiction qui est attachée à ces sargasses peut différer d'un pays à l'autre. Il ne faut pas oublier que ça touche actuellement une trentaine de territoires, donc îles et continents. Et vous voyez, la manière, les usages qu'on en a, la représentation qu'on en a, mais aussi la capacité financière, la capacité technique à s'en occuper, diffère d'un pays à un autre. Vous avez la Dominique, qui est un pays indépendant, donc juste entre la Guadeloupe et la Martinique, qui est aussi impactée par les sargasses, mais ils sont aussi impactés fortement par les ouragans, ils sont aussi impactés par d'autres problématiques, en fait, qui fait qu'ils ne peuvent pas réserver une grande part de leur budget qui est déjà assez petit, au traitement des sargasses. A contrario, vous avez par exemple le Mexique, hein, c'est surtout le Yucatan qui est touché, et le Yucatan, en fait, ce sont des grandes plages qui ont été privatisées par les hôtels et qui ont fait appel à l'armée pour dégager en fait ces sargasses. Mais à côté, vous avez les plus petites communautés qui vont justement bénéficier en fait de ces arrivées de sargasses pour valoriser, pour en faire du savon, pour en faire des briques, etc. Donc il y a aussi par exemple à Sainte-Lucie, donc juste au sud de la Martinique, Sainte-Lucie qui est aussi une île indépendante, hein, une île du Commonwealth. Donc il y a un ancien professeur de sport qui a bénéficié des arrivées de sargasses puisqu'il a monté son entreprise, il a fait travailler toute sa famille, une partie du bourg, parce qu'il fait justement des biofertilisants à partir des sargasses. Donc il y a vraiment, oui, je pense, différents visages à cette sargasse. Et c'est vrai qu'elle est aussi bénéfique. Alors, même en mer, en fait, elle peut être à la fois bénéfique, mais aussi elle peut être nocive. Parce qu'elle peut être nocive quand il y a de grandes accumulations de sargasses avec une grande épaisseur de sargasses qui empêche, en fait, la lumière de pénétrer dans l'eau. Mais elle peut être aussi très bénéfique quand elle sert de DCP. Donc de DCP naturel, donc dispositif de concentration de poissons. Puisque si elle est à la surface, en fait, les oiseaux se posent, il y avait plein d'insectes, les oiseaux se posent, et puis les petits poissons sont en dessous, les petits attirent les grands, etc. Donc il peut y avoir toute une chaîne trophique sous un radeau de sargasses. Et d'ailleurs, les pêcheurs... quand ils voyaient des radeaux de sargasses, donc précédemment, avant ces arrivages-là, avant ces arrivages massifs, ils se précipitaient parce qu'ils savaient que dessous, il y avait du poisson.